Les 12 et 14 d'octobre, Maître Pierre d'Auxerre, conseiller, et Michel de Paris, bailli, ont signifié à Madame de Beaumont, épouse du dit Robert, d'abord à Jouy-le-Châtel, puis à Conches, Beaumont, Orbec et Quatremare, ses demeures ordinaires, que le roi ajournait le dit pour juger le 14 de décembre. Or, le dit Robert, à cette date, a fait pour la seconde fois défaut. Par grand vouloir de mansuétude, notre sire le roi a donné nouvel ajournement à quinzaine de la fête de la Chandeleur, et pour que le dit Robert ne pût point l'ignorer, proclamation en fut faite d'abord dans la grande chambre du Parlement, ensuite à la table de marbre dans la grande salle du palais, et après portée à Orbec et Beaumont, et encore à Conches, par les mêmes maîtres Pierre d'Auxerre et Michel de Paris, où ils ne purent parler à la dame de Beaumont, mais dire leur proclamation à la porte de sa chambre, et à si haute voix qu'elle la put entendre. Chaque fois qu'on citait Madame de Beaumont, le roi passait la main sur son visage, tordait un peu son grand nez charnu. C'était de sa sœur qu'il s'agissait. Au Parlement de justice, tenu par le roi et à la date citée, le dit Robert d'Artois n'a point comparu, mais s'est fait représenter par maître Henri, doyen de Bruxelles, et maître Thiébaud de Meaux, chanoine de Cambrai, avec procuration pour se présenter en sa place et proposer ses causes d'absence. Mais vu que l'ajournement était pour le lundi à quinzaine de la Chandeleur, et que la commission dont ils étaient porteurs désignée le mardi, pour cette raison leur commission ne put être reconnue valable, et défaut fut pour la troisième fois prononcé contre le défendeur. Or, il est su et notoire que durant ce temps, Robert d'Artois a voulu prendre refuge d'abord auprès de Madame la comtesse de Namur, sa sœur. Mais le roi, notre sire, ayant donné défense à Madame de Namur d'aider et de recueillir ce rebelle, elle a interdit au dit Robert, son frère, le séjour en ses états. Et qu'ensuite, le dit Robert a voulu prendre refuge auprès de Monseigneur le comte Guillaume sur ses états de Hainaut, mais qu'à l'instant demande du roi notre sire, Monseigneur le comte de Hainaut interdit de même au dit Robert le séjour en ses états. Et encore, le dit Robert a demandé refuge et asile au duc de Brabant, lequel duc, prié par notre sire le roi de ne point faire droit à cette demande, a d'abord répondu que n'étant pas vassal au roi de France, il pouvait accueillir qui lui plaisait, à sa convenance, mais ensuite le duc de Brabant a cédé aux remontrances, à lui présenter par Monseigneur de Luxembourg, roi de Bohême, et s'est courtoisement conduit en chassant Robert d'Artois de son duché. Philippe VI se tourna et vers le comte de Hainaut et vers le roi de Bohême, leur adressant à chacun un signe d'amicale et triste gratitude. Philippe souffrait, visiblement. Et il n'était pas le seul. Si coupable que fut Robert d'Artois, ceux qui l'avaient connu l'imaginaient errant de petite cour en petite cour, accueilli un jour, banni le lendemain, repartant plus loin pour être chassé encore. Pourquoi avait-il mis tant d'acharnement à sa propre perte, quand le roi jusqu'au bout lui avait ouvert les bras? Nonobstant que l'enquête fut close, après 76 témoins entendus, dont 14 retenus aux prisons royales, et la justice du roi suffisamment éclairée, nonobstant que les charges énumérées fussent assez apparentes, notre sire le roi, par amitié ancienne, a fait savoir au dit Robert d'Artois qu'il lui donnait sauf-conduit pour rentrer au royaume et en ressortir s'il lui plaisait, sans qu'il lui soit causé de mal, ni à lui ni à ses gens, afin qu'il pût entendre les charges, présenter sa défense, reconnaître ses torts et obtenir sa grâce. Or, le dit Robert, loin de saisir cette offre de clémence, n'est point rentré au royaume, mais en ses divers séjours il s'est abouché à toutes sortes de mauvaises gens, bannis et ennemis du roi, et il a averti moult personnes qui l'ont répété de son intention de faire périr par glaive ou maléfice le chancelier, le maréchal de Trier et divers conseillers du roi notre sire, et enfin il a prononcé les mêmes menaces contre le roi lui-même.
L'assistance bourdonna d'un long murmure indigné.
Toutes ces choses susdites étant sues et notoires, vu que le dit Robert d'Artois a été ajourné une dernière fois par publication régulièrement faite à ce présent mercredi 8 avril avant Pâques fleurie, et que le citons à comparaître pour la quatrième fois.
Simon de Bussy s'interrompit et fit signe à un sergent massier, lequel prononça à très haute voix
« Messire Robert d'Artois, comte de Beaumont-le-Roger, à comparaître !»
Tous les regards se tournèrent instinctivement vers la porte, comme si l'accusé allait vraiment entrer. Quelques secondes passèrent, dans un silence total, puis le sergent frappa le sol de sa masse, et le procureur poursuivit.
« Et constatons que le dit Robert fait défaut, en conséquence, au nom de notre sire le roi, requérons que le dit Robert soit déchu des titres, droits et prérogatives de père du royaume, ainsi que de tous ses autres titres, seigneurie et possession, outre plus que ses biens, terres, châteaux, maisons et tous objets, meubles ou immeubles lui appartenant, soient confisqués et remis au trésor, pour qu'il en soit disposé selon la volonté du roi. » Outre plus, que ces armoiries soient détruites, en présence des pairs et barons, pour ne jamais ne paraître plus sur bannière ou sur sceau, et sa personne a toujours banni des terres du royaume, avec interdiction à tout vassau, allié, parent et ami du roi notre sire, de lui donner abri. Enfin, requérons que la présente sentence soit à cri proclamée et à trompe au carrefour principal de Paris et spécifiée au bailli de Rouen, Gisors, Aix et Bourges, ainsi qu'aux sénéchaux de Toulouse et de Carcassonne, pour qu'il en soit fait exécution de par le roi. »
Maître Simon de Bussy se tut. Le roi semblait rêver. Son regard erra un moment sur l'assemblée, puis inclinant la tête d'abord à droite, ensuite à gauche. « Mes pères, votre conseil, dit-il, si nul ne parle, c'est qu'il approuve. » Aucune main ne se leva, aucune bouche ne s'ouvrit. La paume de Philippe VI frappa la tête de Lyon au bras du fauteuil. C'est chose jugée. Le procureur alors commanda aux deux sergents qui tenaient l'écusson de Robert d'Artois de s'avancer jusqu'au pied du trône. Le chancelier Guillaume de Saint-Maur, l'un de ceux que Robert dans son exil menaçait de mort, s'avança vers le panonceau, demanda le glaive d'un des sergents et attaqua le bord de l'étoffe. Puis, dans un long crissement de soie, l'écusson fut partagé. La pairie de Beaumont avait vécu. Celui pour lequel elle avait été instituée, le prince de France, descendant du roi Louis VIII, le géant à la force fameuse, aux intrigues infinies, n'était plus qu'un proscrit. Il n'appartenait plus au royaume sur lequel ses ancêtres avaient régné, et rien dans ce royaume ne lui appartenait plus. Pour les pairs et les seigneurs, pour tous ces hommes dont les armoiries étaient comme l'expression non seulement de la puissance, mais de l'existence, qui faisaient flotter ces emblèmes sur leurs toits, sur leurs lances, sur leurs chevaux, qui les brodaient sur leur propre poitrine, sur la cotte de leurs écuyers, sur la livrée de leurs valets, qui les peignaient sur leurs meubles, les gravaient sur leur vaisselle, en marquaient hommes, bêtes et choses, qui, à quelque degré dépendaient de leur volonté ou constituaient leur bien, cette déchirure, sorte d'excommunication laïque, était plus infamante encore que le billot, la clé ou la potence. Car la mort efface la faute, et le déshonneur s'éteint avec le déshonoré. « Mais tant qu'on est vivant, on n'a jamais toute partie perdue, » se disait Robert d'Artois, errant hors de sa patrie sur des routes hostiles et se dirigeant vers de plus vastes crimes.